Vous écoutez
RMC.
Pour démarrer, j'aimerais quand même, Daniel, te présenter la révélation de cette semaine. Il s'appelle Pierre Dorian. Alors, en fait,
bon, il ne savait pas trop... Bonsoir.
Pierre Dorian, la révélation, je qu'on connaît depuis 20 ans, non, c'est ça?
Mais il a jamais fait l'after, le gars.
Ah, oui, bah, il paraît qu'il a une émission.
Ponctuellement,
je l'avais fait. Quand même pas mal dans l'après-midi.
Bah là, pas... Cette semaine, il avait rien à faire à la rédac. Tu vois, donc on s'est dit, bah tiens, autant le prendre dans l'after avec nous.
Non, mais d'ailleurs, je te remercie, Gilbert.
Et là, il a révolutionné le game.
Parce que ça m'a permis d'évacuer toute ma frustration de l'été. Tu sais que moi, dans le Moscato Show, je suis pas là pour donner mon avis. Je donne parfois. Mais je laisse, bien sûr, la priorité à Eric, à Vincent, à Denis, et Stephen et tous les autres. Donc là, j'avais du temps pour développer des avis. Donc je me suis régalé, donc je vous remercie.
Je crois que j'ai jamais osé te poser la question en 20 ans, mais... C'est comment tu fais l'après-midi pour entendre autant de saucisses sur le foot et rester calme?
Non, mais l'idée est que les talents s'expriment. Voilà.
Eric Dineco quand même, s'il vous plaît.
Ah, en dehors d'Eric, évidemment.
Non, mais moi, mon objectif.
Quand Vincent et Denis parlent de foot, comment tu tiens?
Je veux dire, quand Denis parle de Neymar,
qu'est-ce que tu prends comme médicament?
Non, mais après, il faut avoir conscience de quelque chose.
C'est quoi le bêta bloquant que tu prends?
Il faut accepter que c'est un regard qui est différent, mais ce sont des passionnés de sport et ils regardent beaucoup les matchs, Denis. Vincent moins.
Bah, Denis,
mais
il est toujours au parc.
Vincent, lui, il parle avec sa sensibilité
Denis,
de sportif
parc,
de haut niveau.
Il est en loge avec le champagne et les petits fours. Mais il regarde
alors,
pas le match.
Je te donne une anecdote sur Denis. Alors, c'est faux. Alors, je vais te donner une anecdote.
Bien son émission,
Denis.
Denis Charvet, on parle de Denis Charvet.
Je suis allé voir PSG Angers l'an dernier.
Meilleur joueur du monde de rugby en 87.
En loge, j'ai été invité pour voir PSG Angers l'an dernier. Bon, un match d'une qualité très médiocre, mais peu importe. Denis, il t'engueule si à la mi-temps, tu es en retard si tu regardes la moindre seconde du coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Ne croyez pas que Denis va au parc pour les petits fours. C'est un réel passionné. Hein.
Et on sait, de toute façon, on l'adore. J'adore les deux, moi, aussi bien
voilà,
Vincent que
Daniel.
Denis. Mais, sans le foot.
Pierre,
on va faire parler rugby avec eux. Enfin, on s'entend.
Pas Pierre,
parler
non, une grosse semaine.
Pour le rugby, tu te trompes avec Vincent, il vaut mieux parler foot que rugby.
Pierre a fait une grosse semaine. À tel point que ses avis sont même remontés au très haut niveau. Faut savoir, au très haut niveau, dans certains clubs très connus.
Ah oui.
Très connus, pas très loin de chez nous d'ailleurs.
Ah oui.
Faut le savoir. Et surtout, hier soir, il a quand même dit ça. Écoute.
À l'heure où le club fait une sorte de reset géant, il est logique de penser à s'en séparer. J'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je vais vous dire que je crois qu'il a encore sa place au PSG. Je vais préciser que j'adore le joueur. Donc, je suis pas tout à fait objectif dans cette histoire. Le profil technique de Verratti, moi, j'adore. Moi, c'est ces mecs-là qui sont capables de garder le ballon sous pression, d'orienter le jeu. On n'a pas ce profil-là. C'est pas mal ce qui se passe en ce moment au PSG. Sauf au milieu. Ils ont oublié le milieu de terrain. Ils ont pris Ugarte, qui a un profil, lui, défensif. Moi, j'ai une sorte de rêve. C'est que Luis Enrique fasse un pack avec Marco Verratti, qu'il accepte lui de patienter, de se remettre la tête à l'endroit parce qu'il est très très marqué par la fin de saison dernière, qu'ensuite il l'intègre dans son milieu de terrain sans aucun statut, c'est-à-dire qu'il joue la concurrence. Et là, bah, y a deux solutions. Soit il n'y arrive pas et c'est terminé, merci, au revoir. Soit il y arrive, il trouve sa place dans des conditions d'équité par rapport aux autres. Et je suis persuadé que dans ce cas-là, il a énormément à apporter au Paris Saint-Germain et qu'il peut même être une clé du jeu, du système de Luis Enrique, parce que moi je pense que ces deux personnes-là sont fait pour s'entendre et se marier footballistiquement.
Qu'est-ce qu'on fait, Daniel? On le garde ou on le renvoie au Super Moscato Show direct?
Il faut quand même préciser qu'il a quand même été interrompu plusieurs fois. Là. C'est quand même le montage a été cancellé du montage par Jean-Thomas.
Bien sûr,
mais quand même, je l'ai repris parce qu'il faut quand même le préciser que ce n'était pas la use de 45 secondes. Quand même, on ne lui a pas laissé... Je lui ai quand même répondu. Il y a des objections et voilà, on n'est pas d'accord.
En fait, je ne sais même pas ce qu'on peut répondre à ça, en fait. Parce que tout ça, c'est du rêve. Tout ça, c'est ce qu'on entend depuis des années, des gens qui sont amoureux des joueurs. Donc déjà, la vie n'est pas valable en soi. Moi, quand on me dit j'adore le joueur, bah derrière, on arrête de discuter parce que ça veut dire que t'es pas objectif, ça veut dire que tu regardes pas. Moi, mon truc, c'est que je n'aime pas les joueurs. Mon métier, c'est pas d'aimer ou de pas aimer. Moi, je regarde objectivement ce qu'ils font. Donc, quand tu dis moi d'abord, j'adore le joueur. Bah si t'adores le joueur, donc déjà t'as un avis qui est complètement biaisé. Et ensuite, tu dis je voudrais qu'il fasse un pacte avec Luis Enrique. Bah oui, il a fait un pacte, Luis Enrique. Il lui a dit tu dégages. Et il a fait vraiment un super pacte. Hein. Il lui a dit, je veux pas de toi. Parce que si vraiment il veut de lui, je pense qu'il le connaît, le joueur, non? Il le connaît depuis des années, le joueur, Pierre, on est d'accord.
Pourquoi il l'a emmené en tournée?
Non, attends, on est d'accord qu'il le connaît depuis des années. Non, parce que ça fait des années que j'entends que la terre entière l'adore, que tout le monde le veut, et que surtout, si Guardiola l'avait, alors tous ses fils à Guardiola, dont Luis Enrique fait, il est de la famille. Ah putain, il a l'occasion de l'avoir. Il a l'occasion de l'avoir. C'est le rêve d'une vie d'avoir Verratti quand t'es un fils de Guardiola. Le rêve d'une vie. Il lui a dit, va-t'en, je veux pas de toi. Parce qu'on est d'accord que Luis Enrique qui arrive au PSG, les joueurs qu'il y a dans l'effectif, s'il a envie de les garder, il les garde. Hein.
C'est la vraie question.
Non, mais c'est pas la vraie question. Arrête de croire que c'est pareil avec Neymar. Biaisé et que vous avez pas envie d'ouvrir les yeux, que vous êtes tous aveugles avec ça. C'est comme Neymar. Neymar, mais oui, Luis Enrique, je vais retrouver Neymar, regagner la Ligue des Champions ensemble en 2015. Il va le vouloir. Il va bâtir son équipe autour de lui tellement il a envie de bosser avec lui, tellement il le kiffe. Il est arrivé.
Bon,
je veux pas de toi.
Il ne veut pas de lui. Il n'y a pas de débat. Il ne veut pas de lui. Je sais que t'as rien dit pendant un mois, mais c'est pas une raison pour pas te taire.
Il y a un truc qui, moi, je pense, n'est pas cohérent quand tu dis il ne veut pas de lui. Il ne les aurait pas pris ni l'un ni l'autre en tournée. C'est-à-dire que des joueurs de cette importance-là, tu peux estimer.
Attends, je ne sais pas, interrompu Daniel. Pour des raisons politiques, il prend pas Mbappé. Donc pour des raisons politiques, il prend Neymar. Tu sais très bien qu'il prend Neymar pour le business au Japon, Pierre. Voyons.
Non mais si, par contre, laisse-moi parler deux secondes. Des joueurs de cette importance, que tu les apprécies ou pas, ce sont des joueurs importants dans le groupe. Donc,
non, bah non, la preuve, ils y sont plus. Ils sont pas importants.
Laisse-moi parler deux secondes.
Mais les mecs, ils vont finir en Arabie Saoudite et l'autre, même Galatasaray, on veut pas.
Si tu n'en veux plus, c'est pas le 9 août que tu leur signifies, c'est le 1er juin. Si il leur a signifié le 9 août, c'est qu'il y a des raisons autres que sportives. On en a longuement parlé.
Donc tous les clubs vont vouloir, les clubs les veulent.
Mais peu importe, c'est pas le problème.
Là, ils sont tous devant la boutique.
Barcelone voulait Neymar.
Mais c'est Deco.
Deco l'a dit hier. Daniel Deco.
C'est
bidon. Alors, explique-moi quel intérêt a Deco de dire ça.
Il le voulait gratos.
Quel est l'intérêt de Deco de dire ça? Il n'y a pas d'enjeu, c'est fini, il est parti, il est en Arabie Saoudite, il n'y a plus d'enjeu.
Tu anticipes sur quelque chose dont je voulais parler avec Thibaut tout à l'heure, parce que je savais pas que t'allais rester.
C'est une surprise.
C'est une belle surprise. C'est les mensonges. C'est l'énorme période dans laquelle on vit en ce moment de storytelling qu'on te vend. Le football n'est plus qu'une suite de storytelling. Le même qu'ils nous ont fait avec Messi, soi-disant Messi allait revenir au Barça, il était prêt à couper son salaire, il fallait qu'il revienne parce que la belle histoire, si tu savais le nombre d'experts, mais de mecs même très forts à Barcelone, des agents en France qui m'ont assuré Messi, il va revenir au Barça parce que l'histoire est trop belle. Il y a des présidents qui ont fait leur campagne dessus. On a fait, tu sais comment ça marche en Espagne, Thibaut? Explique à Pierre, il est peut-être pas au courant. On vend du rêve. Florentino fait pareil. Donc, ils ont vendu Messi.
Mais là, il est parti en Arabie Saoudite.
Laisse-moi t'expliquer.
Il n'y a pas d'enjeu, là.
Pas une seconde. Il a été question du retour de Messi au Barça. C'est faux, archi faux.
Neymar, c'est la même.
Est-ce que tu crois
Lui voulait y aller, bien sûr.
Mais est-ce que tu crois, honnêtement, quand on connaît le genre de mecs que sont Guardiola, Xabi, ce genre d'entraîneur-là, tu vois, les cérébraux, les intellectuels, tu penses que quand il construit son équipe, ces mecs-là, Arteta fait partie de ces gens-là aussi, ils construisent, surtout que le Barça, c'est quasi une sorte de reconstruction. Il a réussi l'année dernière. Il y a des jeunes qu'il a lancés. Il trouve une formule. Ce qui lui a fait mal, c'est de perdre Dembélé parce qu'il avait bossé avec lui. D'ailleurs, il l'a dit. Tu crois que ce mec-là, Xabi, il va prendre le risque, en dehors de la communication et du fameux storytelling dans lequel il est en train d'entrer, parce qu'il y a des fans qui auraient rêvé de voir Neymar parce que ça clinque et ça claque de le reprendre, machin.
Laporta l'aurait pris, hein. Mais
Xabi, entraîneur comme lui, tu penses qu'il va pouvoir intégrer un mec comme Neymar avec toutes les incertitudes qui sont liées à ce mec-là dans une équipe en construction comme le Barça? Mais jamais de la vie. Xabi, tout pote et meilleur ami du monde qu'il a avec Messi, il n'en voulait pas. Il ne peut pas l'intégrer dans un collectif. Et Neymar, c'est la même. En fait, vous vous faites des illusions, vous vous racontez des histoires, et les dirigeants vous racontent des histoires. Les gens, cet été, honnêtement, je pense que cet été, on a explosé. On a explosé le baromètre des mythos en transfert, en histoire. Il faut que je puisse passer un moment ou un autre, sinon je ne reste pas Gilbert. Le narratif.
Juste après Thibaut, c'est ton tour.
On est obligé, on
s'y accroche parce que la vérité est tellement dégueulasse, pardon de le dire comme ça, qu'on préfère toujours un narratif agréable qu'une vérité dégueulasse.
Merci. Et c'est ça dont je voulais parler principalement ce soir. Et je peux même annoncer que ça va être mon thème de l'année. Parce que ces mensonges ne cherchent qu'à cacher une chose. C'est à quel point le foot est en train de devenir de plus en plus dégueulasse.
Mot de la fin pour Pierre Dorian, donc très rapidement.
Alors je réponds 4 secondes là-dessus. Autant sur Messi, il n'y a pas de souci. Mais sur Neymar, et c'est pas du tout le même enjeu que Messi. Et quand Deco dit qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas trouvé le montage financier.
Il n'a pas dit ça.
C'est pas parce qu'un avis ne va pas. pas dans ton sens, qu'il est forcément faux. C'est trop facile de disqualifier une déclaration de cette manière. Il a dit le PSG a interdit le transfert vers Barcelone. C'est ce qu'il a dit hier.
Honnêtement, ce qui m'étonne de toi, quand c'est dit par d'autres gens, mais t'es un mec que je connais depuis 20 ans, je sais que t'es un mec très intelligent, que tu ne comprennes pas que Deco, qui vient de revenir au poste de directeur sportif,
Daniel, il n'y a pas d'enjeu à dire ça. Mais s'il le dit, on ne voulait pas de Neymar, il ne perd rien, Deco. Il n'a rien à perdre à le dire.
Absolument pas. Tu ne peux
pas. Il n'a absolument rien à perdre à le dire.
Tu ne peux pas te brouiller avec un tel joueur, avec l'image qu'il a positive restée au Barça. Un mec qui vient en plus sans arrêt à Barcelone, parce que c'est sa ville. Même quand il était à Paris, il prenait l'avion 3 fois par semaine pour y aller. Il n'a, quand tu es dirigeant aujourd'hui,
c'est ce que Deco a été nommé directeur sportif aujourd'hui.
Voilà.
Bruno Alemany,
tu n'as pas à avoir de phrases méchantes. Et ce que tu dis aurait été une phrase négative et méchante. Les dirigeants ne font pas ça.
Et en tout
ils
cas,
sont dans la com. Donc c'est plus facile pour lui de dire on n'a pas pris Neymar parce que de toute façon financièrement on ne pouvait pas, plutôt que de dire Neymar ne nous intéresse pas.
Tu ne peux pas tomber dans ces panneaux-là, très vite, l'objet
quand même de
le mot de la fin pour toi,
l'objet de mon avis était de dire que je constate en tout cas une carence dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Alors, il ne me répond pas sur Verratti, et que j'estime moi que Verratti est ce profil-là qui manque au Paris Saint-Germain. Et donc, dans mon rêve, là, pour le coup que j'assume, qui n'est pas objectif.
Tu fais bien de dire que c'est un
rêve. Et j'ai
pour moi, c'est un cauchemar.
Alors, écoute, Daniel, par contre, sois honnête, j'ai commencé par dire que je n'étais pas objectif, et j'ai utilisé le mot de rêve dans mon avis. Donc, s'il te plaît, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit.
Je ne te le fais pas dire.
Parce que oui, mais enfin, bon, quand même, tu n'étais pas loin.
Non, c'est bon. Donc, pas de problème, voilà. T'inquiète pas.
Donc moi je suis désolé, il y a quelque chose qui m'exaspère dans cette quête du milieu de terrain, c'est que quand on dit Neymar et Verratti, de toute façon ils sont jamais là, c'est bien leur absence qui posait problème. Donc quand tu t'es débarrassé d'un mec, tu n'as absolument pas réglé le problème de son absence. Alors, puisqu'il est plus que jamais absent, il ne sera plus jamais là. Donc penser que couper la tête d'un mec règle un problème, c'est un leurre, et ça je me battrai toujours contre ça. La politique du bouc émissaire n'a qu'un seul intérêt, c'est un intérêt cathartique, ça calme la volonté du peuple de gérer sa frustration.
Alors, ça marche.
Pour le coup, le début de ton raisonnement était très intéressant, mais techniquement, il y a plein de gens qui font la gueule de leur départ.
Mais techniquement, tu n'as
pas divisé là-dessus.
Il y en a d'autres qui sont contents, donc ça tu peux me l'accorder. Donc techniquement, tu n'as absolument pas réglé ton problème. Donc moi j'estime que le chantier reste grand ouvert de la succession de Verratti, et je finis par PSG Lorient où c'était criant. Ce mec capable de faire cette passe. Oui, tu m'as vendu Vitinha.
Il a fait cette passe, il l'a jamais fait de sa vie. Il a jamais fait cette passe de sa vie.
Vitinha ne la fait pas, hein.
Allez stop, Nicolas, au 32-16 est là. Nicolas, bonsoir.
Attends deux secondes.
Non,
Nicolas, mais il faut que je réponde.
Oui, tu répondras tout à l'heure. Nicolas, toi tu veux tenter de les réconcilier tous là sur Verratti.
Bonsoir, messieurs.
Salut Nicolas.
Salut Nicolas.
Un vrai plaisir d'être avec vous, et puis c'est l'occasion de faire une thérapie globale. Il y a Pierrot, il y a Daniel. Tout va bien, on va pouvoir se poser, et mon objectif, ça va être de trouver un consensus sur Verratti qui symbolise et qui cristallise un petit peu les mots.
Je te souhaite bon courage.
Oui, et il en faut. En fait, je pense, parce que je suis comme Pierrot, et Pierrot m'a régalé sur Twitter, voilà, on a même échangé ensemble, son talent en fait est proportionnel à la frustration qu'il génère. Parce que oui, il est spécial. Oui, il est différent des autres. Ah non, parce que
ça fait 11 ans là quand même. Hein.
Oui, ben justement, c'est la fin du propos, c'est que il est spécial, il est différent. C'est un joueur frisson, et par définition, les frissons sont un peu éphémères.
C'est différent, c'est pas pareil. Vas-y, encore un kill, les synonymes. C'est balisto, c'est pas pareil. C'est différent. C'est bon.
Bon, à grande forme.
Arrêtez, quoi, au bout d'un moment.
Daniel, en plus, je vais être d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est un joueur frisson. Mais force est de constater qu'au bout de 10 ans, déjà, il n'a pas progressé. Il n'a pas progressé. Et pour moi, il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du club, à savoir être un sportif de haut niveau. C'est tout ce qu'on lui demande.
Ah oui, si
pour
tu te maries avec ta femme, tu fais du frisson pendant 10 ans, mais la vie de noces, elle n'arrive jamais. Au bout d'un moment, tu vas arrêter de frissonner.
Vas-y, Nicolas, continue.
Les frissons sont éphémères, Daniel. Donc 10 ans de frissons, ça peut être long. Mais pour moi...
Après, la mouche change de nature, après.
Verratti, on arrive au bout de l'histoire. Et je suis pas totalement d'accord avec Pierrot sur le fait qu'il symbolise un peu le jeu Luis Enrique. Puisque Verratti, là où il est bon, c'est dans les sorties de balles. Et quand on est en bloc haut, position haute, à trouver des intervalles, à jouer sur du jeu court, C'est pas là où Verratti va nous être utile, malheureusement. Là où il est très fort.
Ok, mais dans les matchs les plus importants, tu n'auras pas cette configuration-là. Hein. Si tu te projettes un peu plus loin sur les matchs de Ligue des Champions, attendez. Tu ne vas pas jouer comme contre
Nicolas, je te remercie de ta tentative de réconciliation.
La seule piste intéressante que tu as ouverte mérite qu'on s'y attarde deux
Déjà, si j'en ai ouvert une à tes yeux, c'est déjà un truc.
Mais Nicolas aussi, il a fait une bonne synthèse, je trouve, Nicolas. Bravo.
Oui, comme je le disais tout à l'heure pour Xabi et ses entraîneurs-là qui bâtissent des équipes et qui mettent en place un collectif, oui, au bout d'un moment, et notamment après 11 ans pour Verratti, 6 pour Neymar, tu ne peux plus faire confiance à des gens qui sont là 50% du temps puisque ça t'empêche ton évolution. Donc au bout d'un moment, tu ne peux plus attendre.
Après, il y a un truc, Daniel, okay, c'est que Verratti reste un joueur patrimonial pour le PSG.
D'accord,
mais au bout d'un moment, il y a une valeur sentimentale.
Mais il faut arrêter avec les sentiments.
Mais d'accord, que les virées ne règlent pas le problème. Ça, tu es d'accord avec ça quand même.
Moi, c'était le point que je reconnaissais à Pierre, c'est que je croyais qu'effectivement, Verratti faisait partie quand même de la légende du PSG, à mon sens, plus que Neymar. Même plus que Neymar.
D'accord, mais
il y a une valeur sentimentale.
Moi, j'ai arrêté la légende.
J'ai arrêté les sentiments là.
J'ai arrêté les sentiments en 2017, moi. Donc voilà. Bon, bref. Donc maintenant, moi, depuis 2017, j'attends autre chose que les sentiments. Donc là où tu as raison, Pierre, c'est que ces joueurs-là, qui étaient des mecs qui devaient te faire la différence et qui ont engendré plus de frustration qu'autre chose, il faut les remplacer. Et couper la tête ne suffit pas. Couper la tête ne suffit pas. L'équipe, comme elle est là à l'heure actuelle, évidemment qu'elle a besoin d'un joueur qu'on appelle créatif, en gros d'un 8-10. Verratti, c'est un 6-8.
Ouais, mais il peut être un peu plus bas, c'est pas gênant. Il t'en faut, en tout cas.
Tu n'as pas de, Verratti, c'est d'ailleurs à chaque fois le problème, même quand on faisait les chapeaux, et même tout au long de son positionnement, tout au long de sa carrière, c'est qu'on avait du mal. Emery avait essayé de le transformer en 8-10, ça avait tenu deux matchs.
Parce que le football a beaucoup changé au moment où il a démarré.
Il aurait pu être
Regista.
Mais ça a jamais été 10.
Il est arrivé comme Regista avec un poste qui a un peu disparu.
Quand il arrive, c'était le rêve d'un Pirlo.
En 2011, 2012.
Mais il a même pas été le pied gauche de Pirlo, malheureusement.
Entre-temps, t'as eu contre-pressing, entre-temps, t'as eu Klopp, t'as eu le football allemand, t'as eu les Red Bull, etc.
Est-ce qu'il fait maintenant,
on a changé de
profil.
Et lui, et moi, mon point, c'était de dire que lui n'a pas pris le train du nouveau football.
Parce que c'est physiquement.
C'est
ça. Parce que physiquement,
il
n'est pas attention à lui. Donc, c'est pas d'un 6-8 dont tu as besoin, puisque maintenant le club en est pourvu, c'est d'un 8-10. Et là, je suis d'accord avec toi à 100%. Il faut, et je pense que c'est l'idée de Campos, ça m'étonnerait que ça n'arrive pas, parce que je veux bien qu'il continue à se mettre sur des attaquants à l'appel, là, ok, ce qui manque dans ce club aujourd'hui, c'est un 8-10. Ça, c'est clair et net. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu vas enlever un problème, parce que je pense qu'à ils étaient devenus tous les deux un problème de par leur implication, de par leur état de santé. Il fallait passer à autre chose.
Mais moi, tu n'as pas réglé le problème de leur absence.
Mais pour régler totalement le problème, tu as réglé qu'une partie du problème. Pour le régler totalement, il faut un 8-10 maintenant dans cette équipe.
C'est-à-dire un sentinelle, un intérieur. C'est-à-dire
oui, un 8-10, c'est qu'un joueur créatif, on va dire, un mec qui est capable
qui joue comme intérieur, c'est-à-dire dans le 4-3-3.
Un 8-10, c'est Bernardo Silva, c'est De Bruyne, idéalement, on va dire le
plus offensif, un profil plus offensif.
Voilà, un milieu offensif.
Daniel Olmo.
Oui, Daniel Olmo,
comme on dit dans les jeux vidéo.
Daniel Olmo, c'est
Daniel Olmo, un truc comme ça.
On verra. On s'arrête là-dessus. Ça, c'est pas du tout le profil de Verratti.
En tout cas,
c'est la fonction dont je te parle.
Non, mais là,
cette fonction-là, il l'a eu quand même.
Merci.
Parce que tu peux avoir des meneurs de jeu un peu plus reculés.
Merci d'être venu cette semaine. Tu es le bienvenu. Tu es chez toi. Hein. Tu ouvres la porte. Tu viens parler de Verratti.
Merci à toi, Gilbert.
De l'équipe de France. Tu seras là pendant la communion de rugby. Tu feras les
afters. Oui, bien sûr. Les afters, je ne pense pas, non.
Ah, c'est Christophe Cessieux qui fera quelque chose d'after rugby.
Il a dit là, c'est bon, je m'en vais.
Non, parce que là, c'est l'événement du Super Moscato Show quand même à la rentrée, communion de rugby.
C'est l'événement de RMC, l'événement officiel de la Coupe du Monde.
Du monde, là, du beau monde.
Oui, mais nous, dans l'after, par exemple, on va moins parler de rugby que toi.
Peut-être que vous allez en parler parce que si ça prend, tu sais, après, ça peut dépasser le cadre du rugby.
On va notre avis.
Exactement.
Bon, de toute façon, on va regarder, c'est sûr. C'est un méga événement.
L'Italie, ils sont comment?
L'Italie, ça va mieux. Ouais. Ils sont dans la poule de la France.
Enfin, vu la poule à laquelle ils sont.
Après, oui, normalement, ça sort pas de la poule, mais.
Si ça sort, c'est exploit de l'année, c'est au dépend d'une très grosse.
Ah, mais si
c'est
plus grand, de cette poule, c'est un tremblement de terre.
Même de l'histoire du rugby.
Quoique l'Angleterre n'était pas sortie de la poule de sa propre Coupe du Monde, donc c'est déjà arrivé, mais ça serait incroyable. C'est inimaginable aujourd'hui.
Ouais, non, là.